Ce podcast traite d'une affaire judiciaire en cours. Lionel et Jean-Claude Gedge sont donc présumés innocents.
Faut que ça se termine et faut que la justice rende justice, quoi. Il faut faire les choses. Parce qu'on veut tourner la page, on veut passer à autre chose, qu'on en a marre. On en a marre d'experts, en juge, en avocat. Stop! Stop! Ça fait 12 ans déjà qu'on vit ce cauchemar et on en a marre. À l'époque, je venais d'être mère et je vais peut-être être grand-mère demain. Vous imaginez, et on en a encore là, quoi. C'est un cauchemar.
Le 8 septembre 2022, Lionel Gedge a été condamné à 8 ans de prison et son père à 5 ans pour avoir mutilé des centaines de patients des quartiers nord et orchestrer un système d'escroquerie à la sécurité sociale. Comme journaliste à 20 minutes Marseille, j'ai suivi tout le procès pendant 6 semaines. Rencontré deux victimes, Noël et Marie, qui m'ont raconté leur souffrance et leur impatience de tourner la page pour se reconstruire. Je pensais qu'on était arrivé au bout de l'histoire. Mais quand je les recontacte 6 mois plus tard, je comprends que non. Elles sont toujours dans la souffrance et l'impossibilité de se faire soigner. Comment ça se fait? Comment expliquer ce scandale dans le scandale? Je suis Mathilde Sey et vous écoutez Le Sourire Gedge.
Lui promettait à ses patients un sourire de star.
Le dentiste le mieux payé de France.
Il m'a dévitalisé ce jour-là, 17 dents.
À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents taillées. Plus de sourire, plus rien.
Violence volontaire et escroquerie.
70 patients par jour.
La peine actuelle, c'est juste impossible.
Docteur Gedge est quelqu'un de tout à fait lucide.
On nous a massacré.
Beaucoup sont ressortis de son cabinet, la bouche mutilée.
Épisode 4. L'attente. Pour comprendre l'impasse dans laquelle se trouvent Marie et Noël, il faut déjà savoir quelque chose. Entre la mise en examen de Lionel et Jean-Claude Gedge et leur condamnation en première instance, en septembre 2022, 10 années se sont écoulées. C'est long, 10 ans. C'est assez inhabituel aussi en France qu'un procès mette autant de temps à se tenir. Surtout que dans notre pays, des lois existent pour éviter ce qu'on appelle des délais d'attente déraisonnables. Et une décennie, c'est largement déraisonnable. D'ailleurs, en mars 2021, un avocat a saisi dans ce dossier la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi autant de temps alors? Déjà, parce que la justice manque de moyens et qu'elle prend du temps, partout en France. Pour une affaire, il faut environ 2 à 3 ans entre le début de l'enquête et le début du procès. Et en plus, cette affaire-là, l'affaire Gedge, elle n'a pas été suivie par n'importe quelle section du parquet de Marseille. C'est le pôle santé publique qui a dirigé les investigations. Les enquêtes couvrent tout le sud-est, de Bastia à Lyon et de Montpellier à Chambéry. C'est immense comme territoire. Au moment où l'affaire éclate, il y a dans ce pôle un seul juge d'instruction et des dingues greffiers. Et ce juge d'instruction, il doit diriger d'autres affaires titanesques, en même temps que l'affaire Gedge. En 2012, au moment où le dentiste est arrêté donc, c'est aussi le début de l'enquête sur le vaste trafic international de viande de cheval. Le procès se tiendra lui aussi 10 ans plus tard à Marseille. Au printemps 2013, c'est-à-dire quelques mois après, le parquet organise également le procès gigantesque des fabricants de PIP, ces prothèses mammaires frauduleuses.
Le scandale des prothèses mammaires PIP de retour devant la justice 10 ans après le scandale.
Donc voilà, les dossiers s'empilent, les uns après les autres, et celui de Gedge est perdu dans ce tas. Surtout que l'enquête sur le dentiste est compliquée. Elle ne se termine qu'en 2019, ça veut dire qu'elle a duré 7 ans. D'abord, parce que pendant des années, des plaintes ont continué à arriver. Ça, l'avocate de Jean-Claude Gedge, maître Anne Santana-Marc, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, elle s'en souvient très bien.
Il y a eu effectivement des plaintes très très régulières durant de nombreuses années. Et donc c'est ce qui empêchait finalement la juge d'instruction de fermer le dossier. Il y a eu effectivement de nombreuses expertises, ça a été très long, hein. Et donc, la juge d'instruction ne décidait pas de fermer en fait le dossier d'instruction tant que elle continuait à recevoir des plaintes.
Les expertises dont parle maître Santana-Marc, c'est pas du tout anodin. En fait, il faut savoir que pour chaque nouvelle plainte, il faut faire appel à des experts. Ça permet d'avoir un regard neutre et extérieur sur des éléments clés d'une affaire, C'est assez courant dans les enquêtes en France. Dans ce dossier, la justice a mandaté 3 dentistes pour qu'ils examinent chaque patient qui s'est constitué partie civile. Leur objectif, c'est de savoir s'il y a bel et bien eu mutilation. Quand ils le peuvent, les dentistes comparent aussi l'état de la bouche du patient au moment de l'expertise à celle qu'il avait avant de passer dans le cabinet des Gage avec des radios. Lors de la perquisition du cabinet Gage, les enquêteurs ont saisi le matériel informatique et donc les radios de certains patients. Et vous vous souvenez, une dizaine avait été falsifiée, mais c'était pas le cas des autres donc. Cette étape, forcément, ça ralentit un peu plus la procédure. Un avocat de victime m'a dit un jour que l'enquête sur les docteurs Gage, c'était un cauchemar administratif. Surtout qu'à chaque fois qu'une expertise est demandée dans l'enquête pénale, il faut prévenir toutes les parties. Ça veut dire qu'il faut notamment consulter Jean-Claude et Lionel Gage. Après chaque expertise, ils sont convoqués avec leurs avocats dans le bureau de la juge. L'expert est là aussi. On leur présente les résultats des expertises. Ils donnent leur version des faits. Et ça, c'est normal. On appelle ça le contradictoire. Ça permet aux dentistes de donner leur position et de ne pas mener une enquête à charge. Mais ça ralentit aussi beaucoup la procédure quand on a dans le dossier plus de 300 expertises à faire, et donc 300 convocations à organiser. Et puis s'il a fallu autant de temps pour que l'affaire soit jugée, c'est pour une question de place tout simplement. Faut comprendre que le tribunal correctionnel de Marseille, il est déjà petit pour gérer les affaires classiques. Alors imaginez le casse-tête. Comment accueillir dans une même salle plus de 300 parties civiles, leurs avocats, les prévenus, les journalistes, dans un tribunal déjà trop étroit habituellement? Le ministère de la Justice a essayé de trouver une solution. Et ça a pris du temps. En février 2020, on pense voir le bout du tunnel. Le ministère annonce la construction d'une salle de 400 places sur 700 mètres carrés, la salle des procès hors normes. La fin des travaux est annoncée à la fin de l'année 2020. Sauf qu'un mois plus tard, la France est à l'arrêt.
À la une ce soir, le point sur l'évolution du coronavirus et les 130 cas répertoriés désormais sur le territoire national. Avec 3 premiers cas en Outre-mer, question sur l'impact...
Le confinement est instauré. Tout est stoppé. Et le projet prend du retard. La salle sera finie seulement en décembre 2021, soit quelques mois avant le premier procès des Dr Gage. Ce temps d'enquête, ce temps d'attente, ces années de 2012 à 2022, pour les victimes, comme Marie ou Noël, elles ont été interminables. Pendant 10 ans, elles ont souffert en silence. Parce qu'elles souhaitaient que la justice soit rendue, évidemment, mais aussi parce que pendant 10 ans, beaucoup de dentistes ont refusé de les soigner. L'affaire a fait beaucoup de bruit à Marseille depuis le premier article publié dans le quotidien régional La Provence en 2012. Alors, à leur dépens, les bouches des plaignants sont devenues des scènes de crime auxquelles les soignants n'osent pas toucher. À cause de ça, Noël est resté très longtemps sans dentiste. Quand il avait trop mal, il se soignait tout seul, en perçant les abcès lui-même.
À partir du moment où l'affaire éclate, vous avez des soucis buccaux, vous annoncez, de toute façon, dès que vous allez dans une consultation parce que vous avez une douleur, on vous demande de suite qui est-ce qui vous a fait ça, et vous le dites naturellement, quoi. Vous n'allez pas encore vous aussi mentir. Mais de toute façon, ils le savent, tous ils le savent, que c'est le docteur Gage qui nous a fait ça. Et donc de là, ils vous donnent... les cachets nécessaires, les ordonnances nécessaires pour vous faire passer le mal, mais en tout état de cause, ils ne vous touchent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a une enquête sur la situation, il y a un procès qui va se dérouler et qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se retrouver eux aussi dans une situation qui n'auront pas été en cause. Ça a été compliqué. Quand vous en avez fait 3-4, qu'on vous refuse à chaque fois l'accès... Vous êtes tout seul, c'est fini.
Ils me disent que c'est un carnage que ce que j'ai dans la bouche. Il y a des années de soins à faire, à entreprendre, et que pour l'instant, ils ne savent pas, quoi. Ils ont peur, ils ne savent pas à quelle affaire ils ont affaire. Du coup, ils ne veulent pas prendre en charge. C'est trop, ils ne savent pas. L'affaire, elle n'a pas été encore prononcée. Ils ne veulent pas se mêler les pinceaux. Donc, ils attendent vraiment que ça soit bien clair, que tout est posé pour pouvoir prendre en charge les personnes qui vont leur demander de l'aide.
De toute façon, certains avocats conseillent aussi à leurs clients d'éviter de se soigner tant que la procédure judiciaire est encore en cours. Il ne faut rien faire qui puisse gêner le travail des experts. Par exemple, Noël, il aurait clairement besoin d'implants pour remplacer ses dents manquantes. Les implants, ce sont des fausses dents que l'on vient visser dans la bouche. C'est un peu la solution idéale, parce qu'on n'a pas besoin, contrairement au bridge, de toucher aux dents d'à côté. Et puis quand on sourit, on ne voit pas la différence. Mais pendant longtemps, il ne se lance pas, parce que son avocat lui suggère de s'abstenir. Ça peut cacher les dégâts qu'il y a en dessous. Au total, pendant une dizaine d'années, Noël reste donc sans solution. Mais en 2022, il en a marre. Il veut faire quelque chose pour ses dents. Sauf qu'en lieu et place des implants, c'est avec un appareil dentaire qu'il va se retrouver. Un dentier, quoi.
Aujourd'hui, si j'écoute via les moyens qui sont les nôtres et la sécurité sociale, le fait de mettre un appareil qui soit pris en charge, pour eux, voilà, c'est déjà pas mal. Certes, c'est déjà pas mal. Mais ils ne viennent jamais nous poser la question de comment ça se passe. Et est-ce qu'il est possible de vivre avec ça? C'est insupportable. C'est insupportable au bout de la journée. Vous avez envie de vomir. Vous avez un corps étranger dans la bouche, en fait. Ils ne prennent même pas les cas qui sont les nôtres pour dire, bon, on va regarder, de trouver une solution. Et, je ne sais pas moi, de talonner les frais pour qu'on puisse se retrouver. Et puis, ou alors lui refacturer à tout ce qui va devoir payer.
Si Noël n'a pas d'autre choix que de porter un dentier, c'est donc aussi pour une question d'argent. Noël a consulté partout, dans tous les hôpitaux de Marseille. Et on lui répond chaque fois la même chose. Que l'on soit à la CMU, la couverture maladie universelle ou pas, les implants, la sécurité sociale, elle ne rembourse pas. S'il en veut, il faut qu'il paye. Lui, l'ouvrier du chantier naval. Et il faut compter environ 3000 euros par implant. En fait, il n'y a qu'une solution s'il en veut sans trop se ruiner. Partir à l'étranger.
Alors à l'étranger, j'ai consulté partout. Tunisie, Espagne, aujourd'hui c'est plus la Hongrie qui ressort. Il y en a certains pays qui vous accueillent et qui sont, on va dire entre guillemets, présentés comme corrects. C'est la seule façon aujourd'hui d'avoir un budget maîtrisé, on va dire. Mais ça va au-delà des 15 000 euros quand même. Hein.
Et ces 15 000 euros, Noël, pour le moment, il devrait les sortir de sa poche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'il n'y a pas de procès, les victimes ne peuvent pas être indemnisées. En France, ça marche comme ça, la justice. Tant que Lionel et Jean-Claude Gage ne sont pas reconnus coupables, Noël, Marie et les autres ne peuvent pas être reconnus comme victimes. Et donc, elles ne peuvent pas avoir d'argent. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour tout vous dire, il existe un moyen d'être indemnisé avant un procès comme celui-là. Pour ça, il faut faire appel à la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui transmet ensuite la demande au fonds de garantie des victimes. C'est possible pour les victimes de mutilations ou du terrorisme, par exemple. C'est comme ça que des milliers de victimes des attentats du 14 juillet 2016 à Nice ont pu être entièrement indemnisées avant même le procès. Alors, sur les conseils de leurs avocats, plusieurs plaignants se tournent vers cette commission. Après tout, ils y ont droit. Et avoir l'argent pour se soigner, pour eux, ça devient urgent. Oui, mais voilà. Dans l'affaire Gage, aucune des demandes n'a abouti avant le procès. La commission préférait attendre que les dentistes soient effectivement condamnés. Le 8 septembre 2022, les plus de 300 plaignants pensent donc voir le bout du tunnel quand Lionel Gage et son père sont condamnés par la justice. Mais leur soulagement est de courte durée. Le 21 septembre 2022, quelques jours après, la nouvelle tombe. Les deux dentistes font appel de leur condamnation. Je m'en souviens encore. J'étais à la rédaction quand la nouvelle est tombée. J'étais pas vraiment surprise, parce que l'avocat de Lionel Gage m'avait confié peu après qu'il pensait faire appel de la peine de prison. Il ne s'attendait pas à ce que son client parte en détention. Il m'avait dit, par contre, qu'il ne contesterait pas l'indemnisation des victimes. Et finalement, si. Rapidement, j'ai pensé à Marie et à Noël, et à ce que ça voulait dire pour eux. Eux, ils n'avaient pas compris exactement ce qu'était un appel. Marie ne savait même pas qu'il y aurait un nouveau procès du 25 mai au 30 juin 2023. C'est moi qui lui ai appris et qui lui expliquais les enjeux. Parce qu'un procès en appel, ça veut dire qu'on reprend tout depuis le début. On refait le procès sans tenir compte du précédent. En France, ça marche comme ça. Toutes les cartes sont rebattues. Lionel et Jean-Claude Guedj peuvent être relaxés ou écopés d'une peine différente. Et tant que le deuxième procès n'a pas eu lieu, les dentistes sont présumés innocents. L'attente se prolonge encore. Au moins jusqu'au délibéré, sûrement vers la fin 2023. Je dis « au moins » parce qu'il y a un autre truc que je vous ai pas dit. C'est que pour que les plaignants soient dédommagés, il faut qu'ils réalisent une autre expertise, différente de celle qu'ils ont déjà faite. Elle doit venir chiffrer le montant de leurs indemnités. Sauf que cette étape, elle leur coûte de l'argent. Ça m'a vachement surprise aussi. Mais oui, les plaignants doivent avancer les frais. Et ça révolte Marie et Noël.
On doit passer une contre-expertise qu'on doit payer nous-mêmes 2000 euros de notre poche. En sachant qu'il y a des couples, ça veut dire 4000 euros qu'ils doivent payer. Comment c'est possible? On demande d'avoir de l'argent pour être réparé et on nous en demande encore. Je sais pas, c'est aberrant comme situation quand même, je sais pas.
À un moment donné, s'il y a une justice dans ce pays, tout a démontré qu'il y a eu falsification, arnaque, etc. Et abus de gens comme nous autres, hein, de citoyens lambda. Voilà, ceux qui ont le pouvoir de pouvoir faire ces choses-là, à un moment donné, oui, il faut qu'ils soient condamnés et qu'ils payent, tout simplement. Et c'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on doit subvenir à ce qu'on nous a fait et tout le mal qu'on nous a fait passer, nous-mêmes.
Les frais de Noël et Marie seront remboursés, mais seulement s'ils obtiennent gain de cause. C'est-à-dire seulement si les dentistes sont condamnés définitivement. Pour gagner du temps, car la procédure, là encore, est longue, de nombreux patients se lancent dès septembre 2022 dans ces nouvelles expertises, avec l'espoir que la justice leur donnera raison et qu'au final, ils ne perdent pas d'argent. Et en fait, même si les Guedj sont condamnés en appel, reste à savoir qui paiera. Logiquement, ce devrait être les dentistes. D'autant qu'avec la fortune accumulée, Lionel Guedj devrait avoir de quoi faire. C'est ce que je croyais en tout cas. Sauf que ce n'est pas si simple. Les gendarmes soupçonnent Lionel Guedj d'avoir profité des 10 ans qu'a pris la procédure pour peu à peu liquider sa fortune. En gros, selon Maître Gilles Marta, l'avocat de la Sécurité sociale, il aurait fait en sorte de mettre son patrimoine à l'abri. Le but, c'est d'éviter les possibles amendes, les indemnisations des victimes et les confiscations en cas de condamnation.
On s'est aperçu dans le cadre du dossier que un certain nombre d'actifs qui ont été transférés au profit de sa femme. Ça lui a été possible parce que l'instruction a pris du temps, bien sûr. Et donc il a mis à l'abri un certain nombre de biens immobiliers.
Le 26 mars 2013, soit un an après sa mise en examen, la femme de Lionel Guedj devient la seule propriétaire de leur maison d'Aix-en-Provence, estimée aujourd'hui à presque 1 million d'euros. Pourtant, ils l'avaient bien achetée ensemble, le 5 janvier 2012. Et des dons comme ça, à sa femme Emmanuel, Lionel Guedj va en faire plusieurs. Pour autant, les enquêteurs n'ont jamais réussi à prouver leurs soupçons et Lionel Guedj nie toujours, encore aujourd'hui, avoir organisé son insolvabilité. La seule chose qu'on sait, c'est que du patrimoine qu'il avait, il ne reste pas grand-chose entre les dons et les crédits à rembourser. Si Lionel Guedj est de nouveau condamné, il indemnisera les victimes à la hauteur de ses moyens du moment, grâce aux quelques biens saisis par la justice et selon sa situation professionnelle. C'est-à-dire comme salarié du bureau de tabac du cours Mirabeau. Et c'est la même chose pour son père, qui aujourd'hui est retraité. Attention, ça ne veut pas dire que les victimes ne toucheront pas leurs indemnités, mais ça veut dire qu'en attendant que père et fils s'acquittent de leurs dettes, ce sera le fonds de garantie des victimes qui versera les montants à leurs anciens patients, et non pas les Guedj directement. Et cet organisme, c'est vous et moi qui le finançons directement par une somme prélevée sur nos contrats d'assurance.
Je ne sais pas s'il va être solvable encore, puisque on sait qu'il... Il est plein de tours dans sa poche. Mais voilà, après nous... Moi, la prison, je m'en fous de ça. Rien à foutre de ça, moi. Moi nous, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse avoir un retour à la vie normale. On va attendre après le procès, mais c'est très grave d'avoir passé autant de temps pour un procès, pour les victimes, hein. Et d'en être encore là et attendre encore un appel et revivre un procès de la même ampleur, certainement pour une autre tournure vis-à-vis de leur année de prison.
Du 25 mai au 30 juin 2023, Noël retournera pourtant s'asseoir dans cette salle des procès hors normes qu'il connaît maintenant très bien. Aux côtés d'autres plaignants, il livrera encore son histoire. Il écoutera une nouvelle fois Lionel Gage et son père se défendre pendant encore 6 semaines. Moi aussi, j'y retournerai. Est-ce que ces mois en prison les ont changés? Est-ce qu'ils reconnaîtront cette fois des erreurs? Est-ce qu'ils changeront de ligne de défense? Personne ne le sait encore. Mais Marie et Noël espèrent qu'un point final sera donné à cette affaire. Parce qu'au fond, ce que veulent les victimes, c'est toucher l'argent une bonne fois pour toutes pour se soigner, en finir avec la douleur qui les ronge pour certains depuis 17 ans. Ils veulent juste trouver un dentiste pas trop cher et compétent, qui leur permettra de reconstruire leur bouche et de se reconstruire eux-mêmes. Et surtout, avoir enfin la preuve que les gens des quartiers nord, pauvres, peuvent eux aussi être traités comme tout le monde, y compris face à de riches dentistes.
Le Sourire Gage est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media et 20 Minutes. Une série écrite par Mathilde Sey, produite par Clémence Olivier avec Anna Fino et réalisée par Théo Albaric, assisté de Quentin Casmirzac, Marek Panchaud et Marin Grisot. Les producteurs délégués sont Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunagra. Suzanne Collin a aidé pour la relecture. Oriane Bettoni dirige la production, assistée d'Emma Seller. Cyril Pocro est en charge du marketing et Gaël Job attaché de presse. Le visuel de la vignette a été imaginé par Maxime Renaud. Marie Soisic-Fraboulet s'est chargée des photos. Ludine Isole et Alix Duplessis d'Argentré ont assuré la partie juridique. À bientôt.